Vous écoutez
RMC.
RMC.
Et le deuxième est fantastique alors qu'on avait le match.
Vu le fait que les joueurs soient les ses meilleurs joueurs, enfin en tout cas les trois
peut-être ils avaient besoin d'entendre une nouvelle
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
23h04, merci de passer la soirée avec nous. C'est l'after en direct jusqu'à minuit avec Stéphane Guy, avec Flo Gautreau à suivre la Ligue 1 J-4 avant Marseille-Paris-Saint-Germain, suite de notre semaine spéciale dans l'after. Êtes-vous toujours excité par ce match? 32-16, n'hésitez pas. Et puis avec tous ces blessés, quelle équipe pour l'OM? Appelez-nous et venez nous donner votre 11 pour dimanche. Je ferai un point là sur les blessures, l'hécatombe côté marseillais. Le meilleur de l'actu du jour à 23h45. Mais d'abord, on conclut, on referme totalement cette page internationale et concernant l'équipe de France, puisque vous le savez, depuis hier soir, on connaît enfin le dernier adversaire à l'Euro. On a parlé de l'Autriche, on a parlé des Pays-Bas. Parlons à présent de la Pologne qui s'est qualifiée au tir au but hier dans son match de barrage face au Pays de Galles. Et on est très heureux d'accueillir Mathieu Pécarnard qui sévit sur Twitter sur le compte @footpolak ou sur le site Footballski qu'on connaît bien, site spécialisé sur le foot d'Europe de l'Est. Salut Mathieu.
Salut, bonsoir à tous.
Merci de passer ce soir quelques minutes dans l'after. Qualifié, mais vraiment pas un bon match hier face au Pays de Galles, on est d'accord?
Alors, effectivement, enfin, qualifié, soulagé, on va dire, pour la Pologne. Et après, effectivement, c'était une finale de barrage. Enfin, on n'attendait pas non plus un grand match de la Pologne. C'était un match fermé, on l'a vu. Voilà, globalement, c'est ce qu'on attendait.
Ça arrive, je vais être un peu provoque, Mathieu, mais ça arrive des grands matchs de la Pologne. Des matchs où tu t'excites à aller voir jouer, où tu prends un pied.
Alors, c'est une bonne question. Depuis 2016, c'est très compliqué. Hein. C'est très, très compliqué. Il y a très peu de certitudes, on a changé énormément d'entraîneurs, il y a eu énormément de joueurs testés, plus de 70-80, les matchs sont pas terribles, et il y a vraiment un gros manque d'alchimie dans l'équipe, malgré les noms, parce que j'entendais ce que vous disiez au début sur le papier, par exemple, quand Johan et Paolo Breitner ont parlé, qui disaient sur le papier, il y a une belle équipe, la Pologne, sur le papier, si on prend quelques noms, c'est pas mal. Mais il y a ce problème globalement d'alchimie.
En général, quand tu as le gardien qu'à la Pologne et le numéro 9 qu'à la Pologne, T'as une bonne équipe.
Chesney et Lewandowski. Ouais. Bon, le problème, c'est ce qu'il y a au milieu, un peu.
Ouais, mais oui, enfin, il y a dedans. Mais effectivement, Mathieu le dit, il y a quand même des joueurs de qualité en Pologne.
Ouais, puis même quand on prend des Zalewski, de la Roma, qu'on prend Frankowski en piston droit, par exemple, Jelinski, etc. Enfin, Kivior, qui est titulaire avec Arsenal maintenant à gauche. Enfin, il y a des joueurs, mais il y a vraiment ce manque de liant, ce manque d'idées dans le jeu. Et on l'a vu à la Coupe du Monde, hein, le dernier match contre la France aussi, le 3-1. On a vu la Coupe du Monde de la Pologne, c'était vraiment pas terrible et c'est toujours le cas.
Et d'ailleurs, ça n'avait pas été si facile contre la Pologne. Ça avait été un match compliqué pour les Bleus.
L'équipe de France avait galéré. Mais depuis, il s'est passé énormément de choses. Il y a déjà eu deux changements de sélectionneur. En fait, on va retrouver quelle équipe de Pologne là, à l'Euro par rapport à celle que nous, on a vue de près en 2022.
Elle va être différente. Il y a eu deux changements d'entraîneur. On a pris Fernando Santos après la Coupe du Monde. Ça s'est très mal passé. Globalement, à part une victoire contre l'Allemagne en amical, il y a eu une défaite 3-2 en Moldavie. C'est-à-dire qu'on était dans un groupe avec l'Albanie, la République tchèque, la Moldavie et les îles Féroé. Et on a réussi à finir troisième du groupe avec 11 points. Donc c'était compliqué. Donc il y a eu changement d'entraîneur avec maintenant Mirau Probierz, qui n'est pas connu en France, qui est un entraîneur principalement polonais, qui a entraîné le Jagiellonia Białystok et le Cracovia, et qui a remporté deux coupes, et qui a essayé de redonner un petit peu de polénité, on va le dire comme ça, dans l'équipe, en disant, voilà, il faut qu'on resserre les rangs. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour la Coupe du Monde? Faudra voir. Je pense qu'on aura un groupe qui sera à peu près le groupe qu'on a eu maintenant, à 80% pour l'Euro. Mmh. Et après, au niveau des résultats, ce qu'on va essayer de faire, ce que la Pologne va essayer de faire globalement, c'est la troisième place. Voilà. Mais sans certitude, vraiment aucune certitude.
Ouais, dans ce groupe, tu t'avances un peu comme le dernier, quoi, le quatrième qui va aller gratter la troisième, la place de meilleur troisième.
Bah, quand on voit ce qu'il y a dans le groupe, c'est quand même malgré le fait que ça soit c'est un gros groupe quand même pour la Pologne. Enfin, derrière la France et les Pays-Bas, il y a que l'Autriche qui semble assez plutôt accessible. Et encore, quand je dis plutôt, on verra bien vu ce qu'on a vu sur le terrain. Mais voilà, ce sera certainement, c'est ce qu'il y a dans les journaux polonais aujourd'hui, voilà, la troisième place en ligne de mire. Et je pense que c'est ce que les joueurs et le staff ont en ligne de mire aussi.
Oui, parce que je regardais le classement FIFA, la Pologne, mine de rien, 30e, l'Autriche, 25e. Tu te dis que, bon, t'es pas...
Ouais, peut-être 30e, on a perdu contre la Moldavie, en Moldavie, qui est 150e mondial. Donc bon, voilà,
le classement FIFA... Je mets facile la Moldavie, quand
même. Ouais.
En football toujours ou...
Capital Chisinau. Enfin, ça se dit pas comme ça, mais ça se dit pas comme ça, mais
bon. ça se dit comment? Je suis sûr que tu l'as mieux, Mathieu. Ah, tu l'as,
non, moi je suis pas, je fais pas dans le.
T'es pas dans le Moldave.
En le polonais encore ça va, le reste.
Capital de la Pologne.
Tu parles le polonais, Mathieu?
Je parlais mieux à une époque, mais oui, je comprends bien et je lis. Effectivement.
En tout cas, Mathieu, merci beaucoup d'être passé par l'After ce soir pour quelques minutes. Et bon, est-ce qu'on te souhaite bonne chance pour l'Euro quelque part? Non.
Bon, je sais pas si on a besoin de chance. On a juste besoin de travail. Je pense que ça c'est plus important. Et puis et je voulais finir pour dire qu'on a avec Footballski, on a aussi un podcast Omaï Extra Classa où on parle du foot polonais toutes les semaines pendant au moins une heure.
Oh merde.
Voilà. Et que c'est sur Spotify.
Pardon, ça s'appelle je blague, Mathieu. Une heure de foot polonais pendant une semaine.
Stéphane, je pense qu'il y a des choses qui t'intéresseraient.
Non, mais alors ça m'intéresse beaucoup.
Moi, j'aime Jean-Paul II. Est-ce qu'on parle de Jean-Paul II de temps en temps?
On en a parlé. Fan du Cracovia, Jean-Paul II, d'ailleurs.
Bon bah je vais t'amener à te reparler, parce que ça m'intéresse. Ah. Mais pas que de la Pologne, hein. Faut que tu sois. Foot de l'Est en général.
À mon avis, il va te parler de ses vacances d'été.
Ouais, j'ai une question, moi, sur un gardien que j'adore et qui joue en France, c'est sur Boulka. Bon, il y a Chesney, évidemment, mais il a jamais été question. Il est numéro 2 officiel, c'est clair et net.
Ouais, il est pas numéro 2 officiel, il doit être numéro 3 dans la hiérarchie parce que devant, il y a Skorupski qui a plus d'expérience en équipe de Pologne. Et donc, il sera numéro 2, 3, 2 et demi, si on veut. Okay. Mais il sera peut-être amené, si ses performances sont encore celles qu'on voit avec Nice, à être certainement le numéro 1, parce que ça sera certainement le dernier.
Alors, ils se qualifieront peut-être pas. Mais tu vois, j'envisagerais bien un scénario si jamais ils étaient dans des matchs à élimination directe avec un changement de gardien, même si Chachny est bon aussi, tu sais, au moment de la séance des tirs au but. Parce que Boulka est un très très bon gardien dans cet exercice.
Ouais. Même si là il a eu quelques dernières semaines
Moi j'adore Boulka.
Merci Mathieu en tout cas.
Je sais que Stéphane était sceptique sur Elliott Schmeichel et moi j'adorais Boulka à l'époque et je me dis qu'ils ont perdu du temps à Nice.
J'étais sceptique sur l'arrivée de Schmeichel.
Ah ouais, à Nice tu avais dit qu'en Angleterre il n'était pas génial et t'avais raison.
À l'arrivée de Schmeichel. Le départ de Schmeichel à Nice.
L'arrivée de Schmeichel à Nice, effectivement, moi j'avais pas compris à l'époque. Alors qu'ils avaient déjà Boulka.
Qui a eu aussi son moment fort, l'année du titre de Leicester. Oui, fantastique,
Boulka, on l'avait pas vu beaucoup non plus.
Mais moi, je peux te dire que quand ils jouaient, tu te demandais pourquoi, effectivement, tu dis, ils avaient leur gardien titulaire, même par rapport à Benitez. À mon avis, il était un peu au-dessus, mais bon.
Merci Mathieu, à très vite. @footpolak sur X, Twitter. Et
le podcast, redis-nous quand même le nom, pour rien que pour plaisir.
Omaï Extra Classa.
Par contre,
avec OH, Maï Extra Classa.
Steph, tu fais un petit plaisir, t'attends minuit pour aller l'écouter. On reste un peu sur l'émission concentrée.
Je reste concentré.
Merci beaucoup.
Merci, j'écoute le podcast.
À bientôt. Mathieu. Ciao Mathieu, bye bye, 23h11. L'After sur RMC avec Stéphane Guy, avec Flo Gautreau dans un instant. La semaine spéciale OM PSG qui continue, J-4. Êtes-vous excité par ce match, le 32-16, et puis votre 11 Marseillais? Je vous fais état de l'infirmerie dans un instant. Cata pour l'Olympique de Marseille. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit. L'Afterfoot.
Thibaut Giangrande.
23h13, Stéphane Guy et Flo Gautreau en direct jusqu'à minuit. L'After en direct à la radio sur RMC. Merci d'être là. Direct vidéo sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot. Merci d'être là. Vous pouvez venir nous voir et commenter votre soirée dans le chat. Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, c'est dimanche sur RMC. C'est une semaine spéciale qui continue dans l'After. Le 7e de Ligue 1 reçoit le leader, déjà quasi champion, de clubs qui joueront 10 jours plus tard un quart de finale de Coupe d'Europe et qui ont peut-être finalement des objectifs plus importants que cette affiche historique. Êtes-vous toujours excité par ce match? On vous attend au 32-16 et puis dans un instant, venez nous donner votre 11 Marseillais avec cette hécatombe, cette infirmerie pleine. On vous attend au 32-16. Stéphane, Flo, OM Paris Saint-Germain. C'est OM Paris Saint-Germain, ça j'achète toujours
direct, je prends. Oui, je suis excité, Oui, je suis excité pour des d'abord parce que c'est notre affiche, voilà, on a envie de regarder Barça Real, on a envie de regarder moi j'ai envie de regarder Liverpool Manchester United et j'ai envie de regarder Bayern Dortmund et j'ai envie de regarder PSG Marseille. Alors il y a des années c'est plus excitant que d'autres. Et l'année dernière on l'attendait avec beaucoup d'impatience parce qu'il y avait eu le match de Coupe de France et on pensait qu'en championnat l'OM avait un coup à jouer. Il n'en avait rien été. Cette année on a l'impression comme ça à brûle pour point que c'est joué et que c'est pas ce Marseille-là qui empêchera d'avancer Paris. Mais bon, on verra bien dimanche. Donc c'est très, moi ça m'excite en tous les cas.
Flo, t'es d'accord avec Steph, ça t'excite aussi?
Ouais, alors peut-être un peu moins, parce que la façon dont Luis Enrique gère, que moi je soutiens globalement, mais gère sa Ligue 1, disons, on voit bien que les enjeux sont ailleurs, et comme le Marseille est diminué, je vois pas trop, il manque l'enjeu sportif, quoi, il manque l'enjeu comme dont tu parlais de l'an dernier, quoi, tu vois, où t'as eu des saisons bah, quand
là,
même,
là, Flo, quand même, je sais pas, Luis Enrique est compliqué à décrypter, à part par toi, mais à trois jours du retour de la Ligue des Champions, il peut pas se permettre de ne pas aligner la meilleure équipe possible, non?
Oui, non, enfin, bon, après, Cédric, je sais pas ce qu'il veut faire. Ce que je veux te dire, c'est que.
Bah si, attends, là, sur ce match-là.
Bah oui.
Bah, trois jours plus tard, il a Rennes en Coupe de France. Il pourrait très bien se dire.
Ah oui, c'est dans ouais,
non, la Ligue des Champions, c'est dans 10 jours.
Mais t'as quand même, la demi-finale de Coupe de France contre Rennes trois jours plus tard. Finalement, est-ce que c'est pas celui-là le vrai match important?
Mais c'est pour ça. Là, ça va dans le sens de.
Moi, je pense que l'enjeu.
C'est ça qu'il joue pas avant la Ligue des Champions. C'est encore une invention française.
Non, mais il joue Rennes. Sachant les priorités que Luis Enrique a clairement assumées dans ses compos, entre la compo de l'OM qui va être effectivement très particulière par rapport aux absences et les compos de Luis Enrique qui effectivement en Ligue 1 laisse, et sachant qu'il n'y a pas d'enjeu entre les deux équipes, j'entends là pour le podium, même pour l'OM là ponctuellement. Voilà, enfin, c'est pas
un
inapti.
Enjeu populaire.
Moi, je vais regarder. J'adore. On va le débriefer.
Joueurs des clubs sont concernés. Le classico quand non, mais puis joueur de Paris, joueur de l'OM.
Me concernant, en l'occurrence, est-ce que moi, j'étais excité? Je te dis, je vais le regarder avec intérêt et on va le débriefer d'ailleurs dimanche soir dans l'after. Mais je suis pas plus excité que ça et j'ai été plus excité certaines années, notamment quand l'OM, par bonheur, était à la lutte pour le podium, voire un peu plus, et que tu te disais, tiens, il va peut-être se passer un truc, il y aura peut-être une bascule. Il n'y aura pas de bascule, quoi qu'il arrive.
Entre les deux, après Marseille, pour recoller Marseille, à la course à l'Europe.
Ouais, bien sûr. Après, bah, tu vas en parler, mais c'est vrai que j'ai compté 10 absents, c'est ça. Si on élargit beaucoup, mais.
Je crois que si tu élargis beaucoup, il y en a même 12, mais. Ouais. Donc certains qui jouent très peu. Mais...
Nadir.
Oui, voilà, notamment. Ouais. C'est quoi, Stéphane, toi qui en as commenté énormément ces dernières années, ton top 3 ou ton plus grand souvenir d'OM PSG, là, au commentaire?
Il y a eu plein de petites histoires dans les. C'était des grands matchs, mais il y a eu l'histoire. Moi, je me souviens très bien cette histoire des Minots à l'époque de Guy Lacombe. Il y a eu le premier match de Rudy Garcia, complètement dingue avec cette équipe de Marseille qui a pas frappé au but, puis qui est venu prendre 0-0. Un point au Parc des Princes. Puis après, il y a eu des scénarios de dingue. Il y a eu le coup franc de Cavani à la 93e minute qui permet au Paris Saint-Germain d'arracher le match nul. Il y a la causerie où Mbappé n'est pas là, il démarre sur le banc, il rentre, il fait la nif. Enfin, voilà, il y a mille et une histoires dans ce match-là, quoi.
Mais ça veut dire que pour toi, en fait, cette affiche historique sur le papier, elle sera toujours aussi excitante, peu importe les trajectoires des deux clubs, en fait.
Maintenant que c'est vrai que pour ma génération, c'est assez incroyable parce que nous, on a vécu, je pense, enfin, Flo est de la même génération que moi, donc nous, on a vécu les PSG-OM qui étaient des matchs tout à fait lambda. Moi, je me souviens être allé, ado.
Avant les années 90.
Ouais, au Vélodrome, en fait. Voir un Marseille-PSG. Il n'y avait pas d'animosité particulière, donc c'est vraiment Tapis, Canal, etc. qui a créé cette rivalité là. Mais maintenant qu'elle est installée, maintenant qu'elle est là, on peut dire que ça a bien pris, hein. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même, puis il y avait fondamentalement, historiquement quand même, cette opposition multiséculaire entre la capitale et les grandes métropoles provinciales, et donc l'opposition notamment entre Paris et la Provence. Donc voilà, donc elle est là. Oui, il y a pas de raison que ça baisse en pression.
Non, mais c'est vrai que c'est relativement récent, c'est-à-dire que c'est à la fois très important, et puis c'est vrai que c'est à la fois important et très bien que cette histoire entre guillemets ait été construite et écrite, parce qu'effectivement elle symbolise beaucoup de choses.
À 30 ans,
l'histoire
a 30 ans.
Ouais, l'OM,
cette rivalité-là a 30 ans.
C'est ça, ouais. Et c'est intéressant intéressant de voir que bah voilà, Marseille est une ville tellement emblématique et tellement plus éloignée d'ailleurs que toutes les autres aussi de Paris que on peut raconter plein d'histoires. Mais avant, c'est vrai que bah puisque tu parles de génération, moi quand j'étais petit dans l'ordre, ça a été Saint-Étienne-Nantes.
Bien sûr.
Ça a été Saint-Étienne, c'était Nantes-Bordeaux.
Nantes-Bordeaux. On va dire,
et Bordeaux-Marseille, avant que ça devienne PSG-OM. Donc c'est vrai que c'est relativement récent, effectivement.
Oui, bien aujourd'hui, le OMOL, il est pratiquement du même niveau.
Oui, parce que lui a augmenté dans les années 2000 et début 2010. En même temps, Paris, depuis l'arrivée du Qatar, ça a quand même baissé, c'est quand même moins important.
Il y a moins d'enjeux.
Je pense que Paulo nous dirait que la rivalité, je connais pas ça en détail, donc je te dis une grosse bêtise, mais la rivalité Bayern-Dortmund, je pense pas qu'elle soit non plus ancestrale, quoi. Moi, j'ai commenté des matchs anglais où, je veux dire, entre Arsenal et Tottenham, il n'y a pas de transfert depuis 1920, quoi. Mmh. Ou entre Manchester United et Liverpool, il n'y a pas un joueur qui est passé d'un de ces clubs-là directement à l'autre.
Alors que ça s'est fait pas mal entre Paris et Marseille.
Depuis les années 60, quoi. Il y a des fois des joueurs reviennent comme Michael Owen en étant passé par d'autres clubs, mais donc alors que bon notre rivalité à nous, elle est balayée par les incessants transferts qu'il y a eu entre les deux clubs, parce que finalement ça n'arrête pas, quoi.
Dimitri est là, supporter de l'OM au 32-16. Salut Dimitri, bienvenue dans l'After.
Salut, bonsoir messieurs.
Bon,
salut.
Supporter marseillais, Dimitri.
Oui, tout à fait.
Ouais, alors excité pour dimanche ou pas?
Excité, ouais, parce que j'aurais bien aimé y aller, mais bon, j'ai regardé à la maison.
Ouais. Pourquoi t'as pas réussi à trouver un billet?
Alors, le pire, c'est qu'à la base, j'y vais chaque année. Je prends cher à chaque fois. J'habite Bordeaux, donc je fais l'aller-retour en voiture ou en avion. Et là, il y a beau papa qui vient, qui est fan du PSG, on le regarde tous les deux.
Waouh! Donc, en plus, si c'est beau papa, t'es un peu obligé de te contenir ou pas? Ou non, tu vas quand même.
J'ai prévu sa tenue, donc on verra s'il le prend bien ou pas.
T'as prévu quoi?
Sa tenue. Beau papa, il a sa tenue, donc il n'est pas au courant. Donc on verra s'il veut la mettre. Mais
c'est quoi
mais
sa tenue?
J'ai une pull des Ultras, des Winners, et on verra. Je ne pense pas qu'il va accepter.
Ouais, ça m'étonnerait. Mais toi, notre débat là, c'est que ce Paris Saint-Germain, cet OM-PSG t'excite toujours autant là, 2024, alors, malgré l'écart au classement, malgré les blessés à Marseille, malgré les échéances qui arrivent pour les deux clubs, hein.
Quand on regarde, ouais, l'infirmerie, elle est lourde avec Klose qui s'est blessé. Je pense qu'il ne jouera pas.
Je te confirme.
Ça m'excite toujours. Je sais qu'il y a quand même un grand écart, même si, en tant que supporter à Marseille, on espère toujours la cerise sur le gâteau. Mais c'est Benfica qui m'importe. Mais voilà, ça reste un classico, quoi.
Tiens.
Tu prends quoi à choisir? Parce que bon, c'est un choix cordélien, mais entre une victoire contre Paris, une victoire contre Benfica.
Une qualif ou une victoire?
Non, une victoire, je parle pas de la qualif, parce que la qualif, là, j'ai compris.
Je peux faire une modif à la question.
Vas-y.
Allez, le nul dimanche et la victoire contre Benfica.
Ah ouais, tu veux tout, toi?
Non, c'est bien, non? C'est un bon élément de réponse.
Ouais, c'est l'espérance.
Bon, sur les nouvelles de Klose, les gars, donc entre 3 et 4 semaines d'absence selon la Provence, il a passé des examens complémentaires aujourd'hui, il y a une lésion musculaire à la cuisse gauche, donc forfait d'ores et déjà pour le PSG, aussi pour la double confrontation face au Benfica et très probablement même pour le match retour. Et pendant cette trêve internationale, Marseille a perdu 5 joueurs en tout. Pape Gueye et Ismaïl Assar se sont blessés avec le Sénégal. Ulysse Garcia blessé également. Bamo Meïté, lui, s'est blessé à l'entraînement, le défenseur marseillais. Probablement saison terminée pour Bamo Meïté. A ajouté au toujours blessé Murillo, Rongier.
Gigot, non ?
Incertitude autour de Gigot qui a été touché à l'épaule, donc il est très incertain pour dimanche, et même Balerdi qui était touché aux adducteurs qui est incertain.
Ça c'est un coup dur.
Et on peut rajouter à ça Jean Onana ou encore Bilal Nadir. Dimitri,
on peut rentrer à Prusès ou pas?
Sparania déjà.
Ouais, mince. À Prusès, je pense qu'il est chaud, il va revenir.
Ouais. Quelle équipe toi tu vois notamment là défensivement, qu'est-ce que tu peux mettre pour le match face au Paris Saint-Germain dimanche?
Balerdi en croisant les doigts. Ouais, Mbemba.
T'as Merlin à gauche, mais.
Ouais, Merlin à gauche, ouais. Bah après, je vais pas dire qu'on a le gourou. C'est ça qui est dingue, c'est Jean-Louis Gasset. On a changé juste le bonhomme, quoi. Ouais. Donc, est-ce qu'il est capable de leur faire une. Je me rappelle d'un Marseille-Montpellier, on fait 4-4, on perd 3-0, je crois, on finit à 5-4, le match, j'aurais pu casser ma télé.
Ah oui, mais alors ça c'est 99, mais il n'était pas du bon côté.
Exactement.
C'est, C'était donc, Roland qui était du côté de Marseille.
Je sais pas, parce que je pense, j'aimerais pas le vivre.
Ouais. 4-0 pour
mon papa à côté de moi, j'aimerais pas le vivre.
Bon. Pour Montpellier. C'est ça, tu parles de ce match-là, le 4-0 pour Montpellier à la mi-temps. Et l'OM qui gagne, ouais, saison 98.
Juste après la Coupe du Monde, 98.
Ouais. Et l'OM qui gagne.
Non, je sais pas. Franchement, on verra. Parce que même limite, la semaine, elle n'est pas terminée. On ne sait même pas s'il n'y en a pas un qui va tomber de sa douche.
Oui, ouais, c'est sûr. Bon, Dimitri, bon
c'est
match
vrai,
à toi.
C'est vrai qu'on n'est que mercredi.
Merci. Et puis, ravi d'être venu avec vous.
Bah, ravi de t'avoir accueilli à bientôt, Dimitri. Oui. On n'est que mercredi. Il reste 4 jours avant le match. T'es certain d'en récupérer aucun. Éventuellement, Balerdi ou Gigot, mais c'est très incertain. Pour en perdre d'autres. Dans un instant, on continue le débat. 32-16, supporters marseillais. Justement, venez nous dire quelle équipe face au Paris Saint-Germain.
Ouais, c'est quand même clairement l'enjeu. Il est pour Marseille. Hein. Paris n'a aucun enjeu sur ce pas, à part un enjeu d'honneur, ce qui n'est pas rien, ce qui ne devrait pas être rien. Mais
et Marseille.
L'enjeu sportif, il est clairement pour l'OM.
Qui va essayer de continuer.
Marseille qui reste sur l'Europe. On a un peu oublié, mais Marseille reste sur cette défaite à Rennes. Hein, donc,
et à Villarreal, sur une dernière semaine catastrophique.
Voilà, ce qu'on n'a pas oublié, c'est ça. C'est que le problème de Marseille, là, dans l'histoire récente, c'est qu'ils ont fait une très belle série contre des équipes quand même à leur portée et qu'on savait que le calendrier allait être compliqué et que les deux premières marches de ce calendrier les ont ratées dans les grandes largeurs parce que Villarreal, ça faillit être la cata complète et Rennes, c'était pas bon du tout. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je les ai vus en mesure de rivaliser avec Rennes.
Oui, puis je sais pas
et que là, ils ont Paris, ils ont Lille, ils ont un calendrier de dingo là.
Nice qui est arrivé également bientôt, plus le Benfica au milieu. Marseille qui est 7e et une victoire et pourrait revenir à hauteur de Lens hein, qui est 3 points devant. 32-16. Supporters marseillais, venez tenter de faire un 11 ce soir dans l'after pour l'Olympique de Marseille dimanche face au Paris Saint-Germain. On vient dans un instant avec Stéphane Guy, avec Flo Gautreau, l'after en direct jusqu'à minuit.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
Il est 23h28, l'after en direct jusqu'à minuit avec Flo Gautreau, avec Stéphane Guy. Merci d'écouter RMC.
Je corrige, passe pas bien à coup pas parce que j'ai pas joué ma vie là-dessus, mais c'est vrai que Sol Campbell est passé dans les années récentes d'Arsenal à Tottenham, évidemment, est en fin de contrat avec les Spurs, donc ça avait fait un scandale absolu. Et puis il y a eu aussi Jérôme Thomas me le rappelle à l'instant, Galas qui est passé de Tottenham, qui a vécu, lui il a fait Chelsea, Arsenal, Tottenham, donc comme ça, c'est le football moderne.
Mais il est pas anglais.
On appelle ça le football moderne. Oui,
c'est peut-être un peu plus dur pour Campbell,
c'était. Puis il y a eu avant l'un des entraîneurs emblématiques d'Arsenal des années 90, qui était, mais pas directement, mais qui était passé ensuite à Tottenham. Et qui était appelé Judas, qui était appelé. Voilà, c'était.
L'avantage de Galas, il changeait deux fois de club sans déménager. C'est un bel avantage.
Oui, exactement.
On est en direct jusqu'à minuit. À suivre le meilleur de l'actu du jour, bien évidemment, avec un peu de CVC ce soir. Vous savez que l'after suit le dossier de près. Quelques infos à vous donner aujourd'hui avec info signé RMC Sport et Nicolas Pelletier. On est toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'after, @after-foot. Et donc cette semaine, Marseille-Paris-Saint-Germain qui se poursuit. On est à 4 jours de ce match de la 28e journée de Ligue 1. Je vous parlais de l'infirmerie de l'OM pleine de cet effectif décimé, notamment en défense. 32-16, supporters marseillais, n'hésitez pas à venir donner votre 11 et on a Gaël Gaïlaine qui nous appelle. Salut Gaïlaine.
Salut les gars.
Est-ce que je prononce bien ton nom?
Ouais, c'est bon, impeccable.
Bon, sois le bienvenu dans l'after.
Ouais, merci. Bon les gars, je vais faire vite parce que je suis au boulot. juste, je vais passer mon petit message en espérant que Jean-Luc Gasset m'écoute. Je vais juste parler de la défense de l'OM.
Bah oui,
donc,
vas-y.
Donc Merlin à gauche, évidence. Mbemba, en espérant que Balerdi soit là. Si Balerdi n'est pas là, on descend contre Dogbia.
Ok.
Et à droite, franchement, mais Luis Enrique, hein, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix.
Hein. Luis Enrique, il est sur le banc du PSG.
non, mais tu cours.
Pardon.
Ouais, parce que Luis Enrique, offensivement, il est un peu limité, mais il a du jus, et voilà, quoi. Arrière droit, donc moi, je mettrais Luis Enrique sans problème.
Ouais,
sans problème. Ouais. Ça va nous faire des problèmes. Mais bon.
Mais surtout, t'as personne d'autre quasiment, quoi.
Luis Enrique pour défendre sur Mbappé, c'est ça, l'idée?
Bah, avec Mbemba à côté, quoi, en priant.
Oui, parce que t'as Soglo qui a joué un peu, mais plutôt à gauche en début de saison.
Non, c'est trop léger, Soglo. Franchement, en termes de même, sur un match comme ça, aussi important, je pense que Luis Enrique, il aurait. Voilà, ça peut limiter plus ou moins la casse. Je dis pas que ça va le faire, mais.
Le problème là pour Klaus, c'est que c'est au-delà de. Là, en même temps, c'est un problème énorme, parce que ça veut dire que Gasset va devoir responsabiliser un joueur pour prendre ce poste-là pendant un mois, quoi.
Oui, parce que Klaus
et pour des gros matchs, quoi.
Exactement, mais après le problème, si on avait eu Sarr qui était opérationnel, on aurait pu espérer une défense à 3 avec Sarr en piston droit comme il l'a déjà fait cette saison. Mais là, Sarr, il n'est pas là, donc je ne vois pas d'autre solution. À moins de passer sur une charnière à 3, si on a de la chance d'avoir Balerdi, Gigot et Mbemba et mettre Luis Enrique en piston droit, je ne vois pas d'autre solution.
Et redescendre Kondogbia en défense centrale, oui, ça peut être une solution. Il l'a fait un peu par le passé, notamment en Espagne.
Ouais, l'Atletico, je l'ai vu jouer dans l'axe derrière. Après, je pense que Veretout, il a aussi l'intelligence pour pouvoir jouer dans l'axe derrière. Mais après, ça a une grosse perte au milieu. Après, en soi, voilà, on va pas espérer grand-chose. Hein, juste espérer de pas se faire...
Moi, ce qui est plus inquiétant, c'est... Les absents, tu les connais. C'est quel est l'état de forme et l'état de récupération, parce qu'on misait beaucoup sur cette trêve internationale pour des joueurs comme Kondogbia, que j'ai vu à Rennes. Très inquiétant, hein, et qu'il a dû sortir. Moi, ce qui m'a inquiété dans le discours de Gasset, pour te dire, c'est très tôt, très vite, avant Villarreal, ça a été les gars sont très courageux parce que c'est compliqué, il faut tenir encore une semaine. Ça m'a l'impression que c'était l'armée, quoi. Les mecs, c'était la quille, fallait qu'ils tiennent jusqu'après le match de Rennes et après, on se repose, on se met tous au lit, on va s'en sortir. Mais tu te dis, mais attends, t'es à Marseille, c'est pas un petit club quand même. Moi, j'étais quand même inquiet. Je pense que
là,
d'ailleurs,
Gasset. La responsabilité de celui qui a composé l'effectif de l'OM, non?
Ah oui, en partie, mais aussi un petit peu. Alors, ce que j'ai trouvé un peu gênant, moi, j'ai beaucoup critiqué Gasset, notamment pour la prépa du match de Villarreal, mais même Rennes. Avant même le match à Rennes, je me suis dit, mais ils ne viennent pas pour gagner le match à Rennes.
Normalement, le classico, c'est censé être un match un peu
d'accord,
à part,
mais je veux dire, j'attends de voir, et j'espère, et je pense que la trêve aura au moins eu ce mérite. Il faut que des joueurs comme Vertu et Kondogbia soient là, à ce niveau-là, au milieu de terrain, et qu'ils les aient récupérés. Parce que moi, le Kondogbia que j'ai vu, qu'en gros, Gasset semble avoir été obligé d'aligner parce qu'il était déjà.
Il a joué en sélection, là, Kondogbia, avec le Centrafrique, ou pas?
Je sais pas, mais il était fatigué, hein. Alors, à un minimum, j'espère qu'il n'était pas blessé.
Je sais pas s'il a joué, mais en tout cas, il n'est pas rentré blessé. Donc, déjà, bon. C'est ça la excellente nouvelle.
C'est bien ça. Bon, en gros, ouais, c'était ça, les gars. Donc,
ok. Et...
on va croiser les doigts.
Et ton boulot, ça se passe bien?
Écoute, si je suis avec vous au téléphone, c'est que ça va.
Ouais, c'est calme.
Tu bosses dans quoi?
Je suis dans l'industrie.
Quelle industrie?
Je travaille pour PSA. Je m'occupe de tour d'usinage.
D'accord.
Et dans, en région parisienne?
Non, je suis dans l'est de la France. Je suis à Mulhouse.
Ah, Mulhouse, oh là là!
Pas très loin,
c'est marrant parce que Stellantis, c'est Peugeot en gros, hein, pour faire simple.
Ouais, enfin, c'est Stellantis, on va dire Stellantis.
Non, mais je sais bien, mais il se trouve que moi, dans ma famille, puisqu'on est soit, tu sais, historiquement, il y a des familles qui sont Renault, Peugeot, Citroën, et que mon père allait chercher ses voitures à l'usine à Mulhouse. Il y avait un gars qui bossait chez Peugeot.
Moi, je suis petit-fils d'ouvrier Renault, tu vois, par exemple.
À Renault, bah, toi, t'es Renault. Et donc, c'était un grand cérémonial quand il récupérait la 405 ou la 505, puisque c'était la gamme, 504.
J'ai regardé, Kondogbia n'a pas joué avec le Centrafricain pour nous ramener au ballon.
Donc, il n'est pas blessé, alors.
Il n'y a pas de match, soit lui n'a pas joué. En tout cas, il était. Il a pu se refaire la cerise un peu.
Bon, mais s'imposer, alors.
Merci Gaëlien, bon courage.
Allez les mecs, bonne soirée, merci.
Bah et toi salut. Aussi, à très vite, allez, à bientôt salut. Sur MC, bye bye. Il est 23h34, l'after en direct jusqu'à minuit avec Flo et avec Stéphane.
C'est que la 405 et Mi-16, c'était quelque chose. Hein.
Alors, ce que je vois vraiment pas ce que c'est.
Non, mais alors, tu sais qu'aujourd'hui, il y a un truc qui se passe, et d'ailleurs, avec Gilbert et RMC, des partenaires, il y avait le salon rétromobile. Moi, je suis pas un grand fan de voitures, mais j'y suis allé avec un grand fan de voitures. Et il y a un truc qui s'appelle les Young Timers, parce qu'il y a les vieilles voitures d'il y a 50, 60 ans, des très belles bagnoles. Et il y a des voitures que moi, j'ai connues, donc, qui sont, je te dirais, comme la Super 5 ou comme la 405 ou autre, et qui reviennent maintenant à une sorte de mode chez ces collectionneurs. On appelle ça les Young Timers. Et donc, dans ces voitures-là, il y a notamment la 405, que moi, j'ai beaucoup connue, qui m'a permis d'aller au stade, à la Vallée du Cher, très souvent. Et notamment la 405 Mi-16, qui est une voiture un petit peu boostée, quoi.
Dans cette catégorie-là, il n'y a pas la Kangoo?
Ah non, c'est une autre catégorie, ça.
C'était pas dans l'after. Flo, tu viens de nous griller.
Oui,
c'était pas dans l'after, mais de top niveau, là.
D'ailleurs, j'en avais un autre.
Très bien.
J'ai un truc très important dans les infos du jour, je te dirai tout à l'heure.
Ah oui?
Pour samedi.
Excellent teasing.
Vous avez une envie d'aller faire un tour à Saint-Ouen, je vais vous donner une idée de sortie.
Là, dans l'after ce soir, là?
Ouais.
Bah, sinon, ce qu'on fait, c'est qu'à minuit, à minuit, on se dit au revoir et puis tu nous en parles après.
C'est un truc allié au foot.
Ah ouais.
Qu'à trait à la grande équipe du Brésil des années 80.
Okay. Je crains le pire, mais rendez-vous dans 10 minutes, un quart d'heure pour le bon plan de Flo.
Dominique Chapat, dit Nicolas.
On va conclure avec Mickaël qui nous appelle au 32-16, supporter de l'OM. Salut Mickaël.
Salut Mickaël.
Oui, bonsoir à tous.
Tu bosses pas toi, Mickaël.
Donc je voulais réagir par rapport à
la 405 et Mi-16, non, c'est ça?
Ouais. Non, pas du tout. Même si je commence un petit peu à regarder un peu les Young Timers, là, mais c'est pas du tout par rapport à ça. Moi, je vous appelle par rapport à l'Olympique de Marseille.
T'as bien raison.
Donc, j'entendais parler la personne qui était juste avant, ouais. Qu'on donc bien en défense, d'essayer de mettre Luis Enrique en arrière-droit, etc. Mais moi, du coup, je partirais pas du tout sur ce principe-là. Je partirais plus sur le principe de garder le peu de titulaires qu'on a, de les garder à leur poste. Donc, Kondogbia, je le garde au milieu parce qu'il va y avoir une grosse bataille au milieu de terrain. Et moi, en fait, je ferais jouer les jeunes. On a un petit jeune à la réserve qui s'appelle Caprice, qui n'est pas trop dégueu en arrière-droit. Et du coup, en fait, je partirais avec lui en défense en arrière-droit.
En mode un peu les minots, quoi, comme à l'époque.
Exactement, ouais. Mais okay. Alors, on reste que, on part pas sur toute l'équipe, on part pas du tout sur toute l'équipe de Mino, mais on partirait vraiment sur lui en arrière droit. On va prier pour que Balerdi, il soit titulaire, il soit en capacité de pouvoir jouer.
Pourquoi?
Bah parce que non, mais je comprends la problématique du moment, mais
pourquoi ça te fait rire?
Bah, je sais pas, si tu avais dit il y a un an, on va prier pour que Balerdi soit là et titulaire, je trouve ça marrant.
Ouais, enfin Balerdi, là, t'as l'impression que tu parles d'un joueur de seconde zone. Là. Attends, Balerdi, c'est un très bon joueur de foot. Hein.
Ouais. Balerdi, il fait quand même une superbe.
Julien, là aujourd'hui, si tu fais une fine bouche à Marseille sur Balerdi, c'est compliqué quand même. Hein.
Tu vois pas, les projets.
Moi, je viens les joueurs de réserve, mais.
Si, je m'amuse d'entendre ça, c'est tout. Oui, pour moi, si tu commences à considérer que Balerdi, effectivement, un joueur cadre de ton équipe, un joueur phare, c'est que, bah, effectivement, t'as aucune ambition à l'OM aujourd'hui, quoi.
Bah là, c'est pas seulement cadre, c'est qu'en plus, tous ceux qui sont
autour c'est pas la problématique du moment. Je comprends notre auditeur qui se dit, faut au moins qu'on ait des joueurs habitués à jouer à ce niveau-là et fiables.
Moi, je veux bien le joueur de la réserve, là, mais c'est quand même un match contre le Paris Saint-Germain, ça peut être chaud, donc.
Moi, du coup, je mettrai quand même ce petit joueur-là. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut quand même bien se passer sur un match. Et au-delà de ça, il va vraiment y avoir une grosse bataille au milieu de terrain. Et je pense qu'on ne peut pas se passer de la charnière vers tout qu'on doit bien.
Vous avez de la chance que Barcola n'est pas là.
Forfait.
Ouais, on a de la chance que Barcola n'est pas là non plus.
Et par contre, Marquinhos a repris l'entraînement.
Il va y avoir certainement Mbappé, donc ça risque d'être compliqué. Non,
pourquoi, là où je te suis, c'est que je pense qu'effectivement, il ne faut pas dépeupler le milieu. C'est central dans le. Dans l'OM, le mieux de l'OM là avant la trêve quand même était lié quand même à cette paire qu'on veut faire et tout Kondogbia et je me souviens pour avoir beaucoup échangé avec les coachs sur ces questions d'absence et souvent ils préfèrent quand même trouver alors là c'est une problématique très complexe hein, mais trouver du poste pour poste que d'aller réinventer une équipe pour pallier les absences
là quoi. C'est sûr que vu que t'as déjà une problématique au milieu redescendre Kondogbia ou Vertu, à mon avis, c'est pas d'actualité. Déjà, si tu les as
tu rouvres un chantier derrière.
Et le milieu va être capital. C'est pour ça que si t'as Vertu et Kondogbia en forme, on va dire, t'as déjà quand même une base intéressante.
Ouais, mais je sais pas
s'il blague ou s'il est sérieux. Notre ami Victor, il nous dit, il y a Kassim Abdallah qui est revenu jouer avec la N3. C'est vrai, ça, camarade?
C'est vrai, mais bon, il a combien, 35, 36 ans?
Ans, je sais pas. Vous voulez tout à l'heure en équipe de France, peut-être que Kassim Abdallah peut jouer en équipe première de l'OM 10 ans après?
Non, bon, après, pour l'histoire, ça serait beau, mais bon, je pense que plus sérieusement, un petit jeune, là, le petit Caprice qui a 17 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui est plein de jus, qui a une coffre de, un volume de jeu énorme.
Mais Mickaël, toi, t'en espères quoi de ce match? Parce que franchement, quand tu vois les blessés, bon, déjà avant les blessés, mais là tu vois en plus le total de blessés, j'ai l'impression que Marseille, il n'y a aucune chance. La seule chance quasiment, c'est peut-être que Luis Enrique justement fasse des dingueries, fasse tourner dans des proportions incroyables. Toi, tu vois un espoir quand même, Mickaël?
Ben, je vois un espoir. L'espoir, il est difficile à trouver, mais quoi qu'il en soit, il va falloir jouer pour prendre des points parce que on reste sur une défaite à Rennes. Et qu'on a besoin de points si on veut accrocher le bon wagon pour terminer européen cette saison. Donc quoi qu'il en soit, il va falloir tout faire pour essayer de gagner des points. Et c'est pour ça que je suis renchéri sur le fait qu'il va y avoir une grosse bataille au milieu de terrain et qu'on peut pas se passer de la paire vers tout Kondogbia. Donc moi, si vous me permettez, je voudrais me donner ma compo.
Bah vas-y.
Donc du coup, je laisserai Merlin à gauche. Ouais. Je prie pour que Balerdi soit là avec Mbemba en défenseur central. Je mets donc le petit Caprice à droite. Je fais un milieu à 3 avec un milieu défensif central. Je mets Kondogbia avec un milieu central Vertu et je prends Luis Enrique en deuxième milieu central qui a un énorme volume de jeu. Je mets un Rit en 10 et devant, ben, je mets du Ndiaye et Aubameyang pour essayer de lancer des flèches dans le dos des défenseurs parisiens.
Une sorte de 4-3-1-2 ou 4-2 diamant.
Ouais. Ouais, voilà, exactement.
C'est qui les flèches?
Les flèches, ben, Aubameyang et Ndiaye.
D'accord. Non, voilà. pas flèche, Stéphane?
Si.
Sarbacane peut-être plutôt.
J'ai pas vu beaucoup de buts de Aubameyang partir cette année. J'ai eu beaucoup Aubameyang à la conclusion dans la surface. J'ai rarement vu partir dans le dos d'une défense et conclure, mais c'est une flèche.
Il y a un début à tout. Non, après, c'est sûr qu'il a plus la vitesse de ses 25 ans. Mais bon, il me semble pas que la défense parisienne ce soit non plus la plus rapide.
C'est sûr.
Non, mais elle va plus vite depuis que Skriniar est pas là quand même.
Oui, c'est vrai qu'elle a un peu fini ça, depuis qu'il est plus là. Mais bon, voilà, je me dis qu'il faut quand même jouer le coup à fond et il faut essayer de prendre.
Non, mais là où, par contre, là où on doit être sérieux et là où tu l'es, c'est que il y a urgence de points pour l'OM. C'est clair que le mieux, le petit, l'embellie même, c'est pas une petite, c'est une embellie avec l'arrivée de Gassé. Elle vaudra rien si dans le mois d'avril est raté. On l'a dit avant la trêve et c'est plus que jamais d'actualité. Et c'est vrai que ce match-là, vu d'un point de vue marseillais, forcément qu'il fait peur.
Ah, il fait complètement peur et c'est vrai comme le disait juste avant, je sais plus qui s'est gagné ça, mais l'enjeu.
Quand même si t'es au top, les Marseilles au top comme celui de la dernière, on souffert contre le PSG. Donc là cette année c'est.
Et c'est ouais. pour ça que ce match-là en particulier c'est... m'excite moins, moi, justement.
Ouais, enfin,
j'ai l'impression qu'il n'y a pas match, quoi. J'ai du mal à voir le match.
C'est en dehors de l'excitation du match lui-même, ouais. Je regardais le calendrier. Ce qui m'inquiète pour Marseille par rapport à vraiment à ce que tu dis là, aux absents et à ce qu'on se dit là, parce que les absents, c'est une chose. Là, il y a des matchs qui arrivent à fort enjeu. C'est-à-dire que tu vas perdre aussi des joueurs statistiquement sur ces matchs-là, d'une manière ou d'une autre.
Oui.
Une suspension, une blessure et autres. Et tu as donc Marseille-PSG, on l'a dit, tu vas à Lille, Benfica-Marseille, Marseille-Benfica. Donc, déplacement à Toulouse, puis réception de Nice et de Lens et déplacement à Reims.
Et Nice, moi, Nice savoir... du coup, le fait de ne pas jouer le week-end, moi je trouve ça grotesque. Mais enfin bon, tout le monde a trouvé ça formidable que la Ligue déplace les matchs des équipes françaises, donc tant mieux.
Bah pourquoi tu trouves ça grotesque?
Parce que je qui fait ça? Tu vois ça où? Les équipes, elles sont là, elles jouent leur match, t'as un rendez-vous, c'est pas la fin du monde de jouer un match entre deux. Enfin, je sais pas, je trouve c'est.
Bah, faut
c'est,
le voir comme une manière.
On réinvente l'œuf et la poule, quoi, je sais pas.
On met nos clubs français dans les meilleures dispositions.
Ouais, on verra l'impact, je vois pas quel impact positif ça peut avoir.
Bah, on pourra pas le juger, parce qu'on saura pas comment ça aurait été si les clubs avaient joué. Donc, c'est le match qui est entre les deux tours.
Ça veut dire pour l'OM, ça veut dire, bon, ok, ils vont être tranquilles ce week-end-là, ouais. Et ils vont se taper dans la même semaine. Nice, Lens et le match d'avant, tu l'as dit, Toulouse, Nice et Lens dans la même semaine.
En tout cas mais
ça permet au club français de briller en Coupe d'Europe.
Peut-être, mais moi ce que je veux dire par là, c'est que globalement, je serais curieux de voir là sur ces 8 matchs et si on rajoute les deux d'avant là, tu fais la série des 10 matchs, tu mets 3 points par match et on va voir combien l'OM va prendre de points sur ces 30 points parce que franchement quand tu as même quand tu as l'équipe type, quand tu as un banc de touche qui est aussi faible, c'est difficile d'aller. Franchement, c'est difficile d'aller chercher le podium.
Et t'apprends quand même dans les inepties incroyables de ce foot, ce football circus, c'est que donc tu as un joueur qu'on ne voit pas, qui ne joue pas, qu'on ne connaît pas, dont on n'ignore pas la valeur parce qu'on l'a vu jouer, c'est catastrophique, qui est quand même à 500 000 euros par mois. Voilà. C'est ça l'effectif de l'OM cette année.
Tu parles de qui?
Bah de Correa.
Ah oui.
Inconnu au bataille. Il est dans les, je crois qu'il est, j'ai vu, dans les top, dans le top 20, dans le top 5 des salaires de l'OM, dans le top 20 des salaires français. Ouais.
Lui, c'est un énorme.
C'est le quatrième salaire de l'OM, ouais.
Quatrième salaire de l'OM?
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a des gros salaires à l'OM, incroyable. Déjà, ce que je ne cesse de dire, mais
Il y a Aubameyang, déjà. Ouais. Et le premier salaire.
Bah, limite, il met ses buts.
Catastrophique.
Merci Mickaël, bon match, quand même.
Eh ben, merci, on va croiser les doigts et juste un petit mot à Stéphane Guy. Il faut qu'il arrête de s'acharner sur Ballardi. Hein. Vraiment, il fait une belle saison.
D'accord. Écoute, un jour. Oui. Moi, je m'acharne pas. J'ai rien, évidemment, de personnel contre lui. Je trouve dommage. Je m'inquiète. Global, je me dis que si aujourd'hui l'OM, un joueur cadre de l'OM défensivement, c'est Ballardi. Par rapport à l'idée que je me fais de ce que doit être l'OM, c'est ça qui m'inquiète. C'est pas Balerdi en soi. Balerdi, il jouerait à Toulouse ou au Stade Malherbe de Caen, je le trouverais très bien. Mais me dire que c'est un joueur cadre de l'OM aujourd'hui, je comprends pas.
Alors, moi personnellement, je trouve que cette saison, alors je parle pas des autres saisons où il avait beaucoup de sauts de concentration, etc. Mais cette saison où il arrive un petit peu à rester concentré sur toute la durée d'un match, je
trouve qu'il a moins de boulettes,
par exemple à Mbemba.
Il y a un peu moins de boulettes, c'est vrai. C'est
voilà,
vrai.
Non, moi je préfère pas Balerdi et Mbemba. Et mais après, si tu veux, ça dépend où tu mets le curseur. C'est se dire par rapport à ce que moi je vois l'OM pour moi, hein, dans mon imaginaire, puis avec les moyens, parce que quand je vois les salaires qu'aligne l'OM, je me dis quand même, il y a une très bonne interview, vous la lirez demain, du patron de la DNCG dans l'équipe, où je veux dire, il y a des salaires, il y a des budgets, il y a de l'argent, tu dois être avec ces moyens-là, au lieu de jouer le profil bas comme le fait souvent Longoria, avec ces moyens-là, tu vas être capable de trouver des meilleurs joueurs que ça, une meilleure équipe que ça, c'est invraisemblable.
Justement, des choix ont été faits.
Un Correa à 500 000, c'est scandaleux. Ah ouais. C'est ça qu'il faut dénoncer. Vous, les supporters de l'OM, vous devriez être vent debout contre ça. Vous devriez dire, mais avec le poignon, McCourt, machin, avec cet argent-là, on devrait avoir une équipe compétitive.
Ah mais complètement. Et il y a eu de très mauvais.
Moi je préfère Medina 10 fois à Balerdi, tu vois. Et Medina il gagne pas le salaire de Balerdi.
Je pense que Mickaël il peut être d'accord avec toi, non?
Vous montez tous au créneau, je vois les mecs Balerdi. Mais des défenseurs du niveau de Balerdi, j'en trouve 5 en Ligue 1, quoi.
Alors cette saison, franchement, je trouve que Balerdi, alors peut-être que je le vois vraiment trop beau, hein, mais je trouve.
Mais combien est l'OM au classement, Mickaël, cette saison? Combien vous êtes au classement? Qu'est-ce que vous jouez en ce moment? Tu vois ce que je veux dire?
Et qu'est-ce qu'on a eu comme entraîneur?
Tout vient pas de Balerdi. Et puis que si tu me dis Balerdi est en progrès, je veux bien le croire. Il est plus fiable. Il a des qualités. Hein, c'est un joueur qui a des qualités. Mais que ce soit le joueur qui est censé être le titulaire en défense centrale de l'OM, moi ça m'interpelle.
Oui. Okay. Ben, par exemple, si on entre Gigot et Balerdi. C'est quoi
qui
est mieux?
Oui, je sais, on l'a déjà fait ce débat-là il y a un mois. Ouais, ouais. Voilà, non, mais je suis d'accord entre Gigot. Mais pour moi, c'est ni l'un ni l'autre, voilà. C'est ni l'un ni l'autre.
Mais le problème, c'est qu'en fait,
je comprends plus le profil de Gigot que le profil de Balerdi. Mais c'est ni l'un ni l'autre. Voilà. Ouais.
Allez, Mickaël, bon match à toi. Bonne soirée et à très vite sur RMC. Bye bye. Dans un instant, on conclut sur ce Marseille-Paris Saint-Germain avec l'interdiction de supporters, de déplacement pour les supporters parisiens et le ras-le-bol du collectif Ultra Paris. Et le meilleur de l'actu du jour, ne bougez pas. Dans un instant, un bon plan de Flo Gautreau. Vraiment, on a hâte d'entendre ça. Ce sera dans l'after avant minuit.
C'est du patrimonial, du football patrimonial.
Oui. On va l'avoir avant minuit. L'after avec Stéphane Guy et Flo Gautreau. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Thibaut Giangrande.
Il est 23h50. Merci d'avoir choisi RMC une fois de plus. On est en direct jusqu'à minuit avec Flo Gautreau, avec Stéphane Guy, le meilleur de l'actu du jour dans un instant. Ah
voilà. C'est l'heure du coffre.
Exactement. C'est l'heure du coffre. C'est l'alerte et vous avez entendu à l'instant ce coffre qui s'est déverrouillé. C'est donc le moment de vous inscrire pour tenter d'ouvrir le coffre RMC. Si vous voulez tenter de gagner 50 000 euros grâce au coffre RMC, vous envoyez par SMS coffre au 732-16, coffre au 732-16. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant.
Orthographe, le coffre.
Vas-y.
Donc c'est pas C-O-P-H-R-E parce que sinon ça va pas marcher.
C-O-2-F.
On va dire la vraie parce que sinon
C-O-F-F-R-E. Coffre au 732-16.
On est là.
Ouais, ouais.
Dans la France de 2024.
Ouais, non,
c'est Flo qui sous-estime.
Moi, je fais gaffe. Je me dis, j'ai pas envie qu'ils perdent. Donc pas d'erreur, on tape pas. Tu vois,
après,
peut-être l'écriture, tu sais, automatique, parfois il y a des surprises.
Oui. En fait, c'est ce que tu veux dire, ouais. Soyons vigilants, absolument.
Attention.
Et si jamais vous êtes tiré au sort vendredi prochain, après-demain,
les lots, là.
Vous remporterez peut-être la somme de 50 000 euros.
50 000 euros.
C'est un truc de fou. C'est énorme.
Franchement, on peut payer une partie de salaire de Correa.
Ah oui, tout de suite,
c'est 10%. C'est 3 jours de boulot.
Ouais, pas grand-chose. Pas grand-chose. Non, tu peux payer une partie du salaire de.
Thibaut.
Justement, j'allais déraper, mais on va tourner cette page-là.
Daniel.
Peut-être. Il est 23h51. Pour conclure sur Marseille-Paris-Saint-Germain, sachez qu'on a appris aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de supporters parisiens au Vélodrome dimanche. Pas de surprise, hein. C'est comme ça tous les ans depuis 2009. Confirmation aujourd'hui du ministère de l'Intérieur. Réaction du CUP, le collectif Ultra Paris aujourd'hui, qui explique entre autres, je cite, « Notre liberté d'aller et venir est bafouée, mais notre pays est incapable d'organiser un déplacement de supporters pour le classico du championnat. Nous ne supportons plus ce traitement discriminatoire des fans de football, pas plus que nous n'aimons l'atmosphère aseptisée des stades sans fans ouais. adverses. » Voilà, long communiqué, je vous lis la fin. « Nous n'en pouvons plus de ce traitement. Il est plus que temps que l'État, les préfectures et les instances du football assument leurs responsabilités. Et à l'instar de nos voisins italiens, alors, allemands ou anglais, arrivent enfin à gérer les déplacements de supporters. »
Moi, si tu veux, j'étais au Vélodrome pour le Marseille-Lyon, qui a été une catastrophe. Moi ces trucs où on a l'État, là, on est repassé à Vigipérate, on a rehaussé le niveau de vigilance. Je vois que les gars de la Sécu ici, RMC, font le job et tout, les voitures. Je veux dire, c'est compliqué, ça coûte très cher la sécurité. On n'est pas capable, et les clubs parfois aussi.
Mais les clubs, faut le rappeler.
Oui, en partie. Ça coûte très cher. Et là, en l'occurrence, si tu veux mettre une sécurité particulière, tu sais, qui par exemple sécurise le bus, c'est de A à Z, tu dois faire appel après à des effectifs supplémentaires. Hein, tu sais, pour arriver, on l'avait vu pour l'histoire du match Marseille-Lyon. Quand il y a d'autres priorités, quand c'est un peu compliqué, quand tu risques ce genre de choses, je veux bien qu'on redoute les stades aseptisés, mais l'État, ça coûte très cher. Et moi, je suis pas contre aussi une absence d'incident.
Ça devrait pas coûter. C'est-à-dire que s'il y avait des comportements responsables, les citoyens, les gens se déplaceraient, ils se déplaceraient pas pour se battre, ils se déplaceraient pour encourager leur équipe, ils se déplaceraient pas avec des battes de baseball ou je sais pas quoi. Et puis, il y aurait pas besoin de mobiliser. Donc, faut que chacun réfléchisse bien au comportement qu'il a. Mmh. Est-ce que le comportement des supporters est un comportement de supporters ou pas?
Il y aura donc pas de Parisiens dimanche, mais énormément de Marseillais. On annonce peut-être un record pour ce match.
C'est vrai que c'est un regret quand même de se dire qu'effectivement, on n'est pas capable, en France, pas seulement l'État, mais nous, citoyens français, on n'est pas capable collectivement de se déplacer.
Et à l'inverse, quand
on fait ce genre de match. C'est gentil de dire nous, citoyens français, enfin. C'est un nous, certains idiots.
Oui, bien sûr. Ouais.
Mais à l'inverse, c'est vrai que quand ça se passe bien.
L'immense majorité se déplace correctement. Mais c'est vrai qu'on paye, là, tout le monde paye le comportement de quelques dizaines de
la succession d'un incident, encore une fois. Débiles. Pas d'incident, d'ailleurs, de drame, depuis le début de l'année. Mais font qu'effectivement, tu. Mais c'est vrai envie que, de relâcher la pression.
Quoi. J'étais à Rennes, donc pour Rennes-Marseille, et j'ai fait des photos, je les ai signalées sur Twitter, et c'était remarquable parce que là, tu avais un stade plein, tu avais le barrage extérieur plein de Marseillais qui ont chanté pendant tout le match malgré le match compliqué des Marseillais, et que quand c'est comme ça, tu te dis effectivement c'est top. Ouais. Quand t'as pas une partie du stade vide parce que c'est le parcage extérieur, quand dans le parcage ça se passe bien et que ça chante, c'est vrai que des deux côtés c'était beau.
Et d'ailleurs pas de supporters non plus nantais à Nice ce week-end. Rennes, tiens, on en parle justement, conférence de presse aujourd'hui pour officialiser la prolongation de Julien Stéphan. Il ne devait que finir la saison dans un premier temps finalement. Il est déjà prolongé après son début de saison. Son début d'aventure, de deuxième aventure très réussie avec Rennes. Et puis, donc Florian Maurice était là pour parler de cette prolongation. Et pas que, il a été interrogé sur les JO. Parce que vous savez, dans la liste qu'on fait nous-mêmes les premiers de joueurs supplémentaires, éventuellement pour les JO, ouais, Stéphane.
Contrôle, Thibaut Stoltelier, mais il est 23h55. Mmh. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, ce sujet des propos de Florian Maurice à propos des JO.
Et t'as peur que ce soit trop juste
peut-être
pour...
que ça mériterait qu'on le traite, effectivement. Bah,
On va l'écouter.
Et demain,
on pourra en reparler demain. Florian Maurice, est-ce que le Stade Rennais va mettre à disposition des équipes de France ses joueurs pour les Jeux Olympiques de Paris?
Non, effectivement, vous pouvez comprendre que libérer 4 joueurs titulaires du Stade Rennais dans une compétition qui est effectivement fantastique, mais comprenez aussi les clubs, et je crois qu'il y a un très très grand club qui a été très clair et très cash là-dessus. Évidemment, on fera du mieux possible, je vais dire, pour pouvoir aider l'équipe de France, mais il faut que les intérêts soient communs. Et on ne peut pas se déshabiller et pour habiller forcément l'équipe de France, mais c'est difficile pour nous, il faut le comprendre.
Florian Maurice au micro de Xavier Grimaud.
Pour moi, il n'y a qu'une porte qui peut fermer, hein. C'est celle du plus de des plus de 23 ans en l'occurrence.
Bah oui, mais on, quand on fait la liste des plus de 23 ans, il y a toujours plein de René qui reviennent.
Oui, non, mais il parle
pas des quatre.
Lui parle au global.
Ouais, de Doué.
Il inclut les Doué, Truffert et autres, plus éventuellement un plus de 23 ans où il fait son calcul.
Ouais, on parle de Bourigeaud beaucoup.
Bourigeaud pour les plus de 23 ans, pourquoi pas Terrier, n'importe quoi.
Exactement.
Ouais. Mais après, il ajoute, lui, ceux qui probablement peuvent y aller côté jeune, c'est-à-dire Truffert et Doué notamment. Bon, l'équipe de France à une époque, bon, moi je comprends, chaque club c'est un peu la boutique, mais l'équipe de France c'est quand même l'équipe de France. Donc si t'es sélectionné, si t'as la chance d'avoir des sélectionnés, normalement tu y vas, quoi.
C'est pas une date FIFA.
Non, mais c'est pas une date FIFA, et moi je le comprends juste pour les joueurs de plus de 23 ans, et à la limite, parce que cette histoire-là, elle est un peu particulière. Mais par rapport à tous les autres, c'est-à-dire les moins de 23 ans, c'est
même,
une chose.
Stéphane.
Le débat de demain.
Ouais.
Je vous écouterai.
Non, mais je serai pas là. Moi je trouve ça incroyable qu'on puisse tenir ce genre de propos.
On devrait mettre nos joueurs à disposition des Bleus.
J'ai trouvé scandaleux en 2021 déjà, alors que les Jeux étaient à Tokyo.
Là,
raison de plus, ils sont à Paris, mais je trouve ça dingue qu'on soit pas capable une fois tous les 4 ans l'intérêt. Est-ce qu'on peut de temps en temps dans ce pays, ça revient presque au sujet des supporters, penser intérêt général et pas sa petite boutique, son petit réchaud dans son coin. Enfin, c'est effrayant. Quoi.
Bon,
c'est très symptomatique du monde dans lequel on vit.
On en reparlera demain en longueur. Et c'est promis, tu seras là en plus, Stéphane.
Donc, signaler pour
dire également,
le petit Moréné, c'est le très beau but de Gaël Adoué, le frère de Désiré, avec la Côte d'Ivoire, qui a marqué avec la Côte d'Ivoire. Dans la série, les défenseurs qui sont très bons, très beau but, mais c'est surtout un gars qui, et la famille Doué, c'est quand même quelque chose, parce que parfois défensivement, il y aura encore des progrès à faire.
Est-ce qu'il faudrait pas le mettre devant la place de Kalimundo?
Je sais pas, mais c'est un très bon joueur techniquement parlant. C'est un très très bon joueur techniquement.
Très rapidement, juste vous dire que
Lyon s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe des Champions. Tu t'en fous.
Voilà, exactement. C'était ça que j'allais dire. Et puis vous dire également.
Moses Simon s'est blessé.
Oui, ils ont battu le Benfica, les Lyonnais. Moses Simon.
Doublé d'Atudiani et doublé de Delphine Cascarino.
Moses Simon s'est blessé gravement, sorti sur civière lors de la défaite du Nigeria face au Mali.
Fracture du tibia, je crois.
Exactement, fracture du péroné de la jambe gauche.
Péroné.
Donc saison terminée malheureusement dans la course au maintien pour les Nantais et malheureusement pour lui en premier lieu. Et vous dire également que dans le dossier LFP-CVC qu'on suit énormément dans l'after, que ça y est, la mission d'information du Sénat est bel et bien lancée. Elle débutera le 4 avril et donc le Sénat va pendant 6 mois pouvoir interroger tout le gratin du foot français et poser toutes ces questions, faire un point sur le dossier CVC-LFP. Voilà, pas mal de questions comme l'absence de limite dans le temps de cette vente du foot français à la société commerciale. On en reparlera également en longueur demain. Et juste avant de terminer, Flo, t'avais ton bon plan.
Vous connaissez Socrates, le Brésilien, mais il va avoir une rue à son nom, le Brésilien Socrates à Saint-Ouen. Il y a l'inauguration de cette rue en présence de Rai samedi à 11h. Donc la mairie de Saint-Ouen a décidé à voter le fait de donner le nom d'une rue au docteur Socrates, et ce sera en présence de l'ex parisien et footballeur international Rai.
Et dirigeant du Paris FC, c'est drôle.
Ouais, et dirigeant du Paris FC. Mais en l'occurrence, voilà, je trouve que c'est assez marrant d'avoir mis à l'honneur un joueur aussi emblématique, intéressant, et donc je vous conseille d'aller lire un peu toutes les histoires qui tournent autour. Le docteur Socrates à sa rue à Saint-Ouen, c'est quand même assez original. Ouais,
c'était un vrai bon plan. Merci Flo.
Bah ouais,
merci Flo. Ouais, c'est une belle petite info.
Stéphane Guy, merci les gars. Bonne soirée.
Merci,
Stéphane,
bonne soirée,
à demain. L'after revient, Génération After, dès 20h et 22h avec Stéphane et Daniel Riolo. Merci à vous d'avoir été là. Merci à Tim, à Jérôme Thomas en régie, à Max du Standard. Vous allez retrouver son podcast dans quelques instants. Bonne nuit tout le monde, on se retrouve demain pour l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.